Deuxième opus, Christian nous partage ce qui l'attire dans le design et aussi ce qui l'énerve. Bon, petit cast.
Je te dis d'où je viens. Ben moi, c'est l'art, tu sais, je veux dire, c'est l'altérité, la différence, les choses innovatrices, l'art beaucoup, l'art contemporain, les formalistes, l'installation, la mode innovatrice, je trouve qu'elle est très porteuse. Mmh. Au niveau des gens, au niveau de... Pas le blim-blim, les trucs qui sortent en fla-fla, là, tu sais. L'architecture, c'est quelque chose qui m'a toujours très stimulé. Les formes proposées par la nature. Bon, le mouvement de la lumière sur l'eau, par exemple, est quelque chose de très reproduisible au niveau électronique, tu sais, et qui crée du rythme et qui fait beaucoup d'apaisement à l'humain, si l'associer à un son, par exemple, tu sais. On fonctionne beaucoup par analogie en motion design avec des expériences. On vient à l'expérience de l'utilisateur. Mais le design, c'est ça que c'est au bout de la ligne. C'est une expérience d'utilisateur. C'est un chemin que tu fais. C'est quelque chose que tu arrives devant un objet et tu as un sentiment. Puis le bon design, pour moi, c'est ça. C'est pas quelque chose de trop fla-fla. C'est avant tout. Un vertige, quelque chose de clever, quelque chose qui te pose une question, tu prends un objet dans tes mains et tu dis « Oh wow, c'est vrai cette affaire-là », genre t'as une cuillère, puis en même temps un couteau, puis en même temps elle fourchette, puis en même temps elle ouvre canne, puis tu dis « Mais écoute, il y a une intelligence qui se met autour de cet objet-là. » C'est une place où il y a beaucoup d'innovation, puis le job du design graphique, c'est un peu ça, c'est d'innover au niveau de la structure des textes, au niveau de la structure de la communication. T'sais. Tu me demandais, c'est qui mes chouchous, tu sais. Il y en a beaucoup, tu sais. Je pense que c'est Gilles Saussier, Luc Laporte, l'architecte qui a fait l'Express, qui a fait la SAP, qui a fait, tu sais, tellement de beaux lieux à Montréal, le luxe à l'époque.
Ah ouais.
Les gens de Big City, les autres architectes qui ont fait Discrete Logic, tu sais. Guillaume Sasseville, un jeune designer qui a étudié l'horlogerie en Suisse, le design au Québec, qui a gagné le prix Design de Montréal, qui fait des verres, une collection de verres, qui sont les cadeaux officiels de la ville de Montréal pour les dignitaires étrangers. Un designer impeccable, super créatif, qui travaille avec la maison Swarovski, puis plein de trucs dans l'ombre. Daily tous les jours, ceux qui ont fait les balançoires, qui achètent pour la Bolduc, tout ça. C'est encore une forme de design, c'est habiter l'espace public, revisiter nos classiques. Bon, après, bon, j'ai Denis Gagnon, que je trouvais incontournable au Québec au niveau du design fashion. Les gens du studio Paprika au niveau du design graphique. Vallée du Hanel. Baya Cardel qui ont fait les bonnes années de le feu de Baya Cardel, deux designers grand motion design qui ont fait des choses extraordinaires au niveau des projections vidéo, puis MuTech, puis le festival, tout ça. On n'est pas en reste ici, là, tu sais, c'est comme.
Alors.
Puis naturellement, ben, au niveau international, moi, j'ai les travaux de Zemiaki, par exemple. Tu vois, Zemiaki, c'est un designer qui, par défaut, un designer graphique qui est devenu designer de mode, tu sais. Puis c'est sûrement un des arts les plus innovateurs du Japon au niveau de comment fabriquer des vêtements aujourd'hui, des techniques contemporaines qui ne coûtent pas cher, des systèmes de vêtements sans couture, juste des systèmes de colle, de pliure. Tu sais, c'est comme un... Des arts, c'est aussi ça, c'est innover ça, dans sa façon de fabriquer. Mais moi, ce qui m'a beaucoup influencé à l'époque, purement graphiquement, c'est les travaux de David Carson, je sais pas si tu te rappelles, le magazine Red Gun dans les années 90. Très Nine Inch Nails dans le look. Neville Brody, qui est le designer du magazine The Fame. C'est du monde qui ont mis la table pour une exploration graphique très forte, je pense. Puis, à la fois qui ont une cohésion et une rigueur au niveau de leur travail graphique toujours. Puis bon, mais naturellement, ici, il y a des collaborateurs qui travaillent souvent, comme tu sais, je pense à Barbeau, à Éric Barbeau, Daniel Labrie, Jean-François Campeau, des gens qui sont des directeurs artistiques de plateau, mais qui sont des artistes et des designers dans la langue, tu sais, c'est comme Charles Schaeffler, avec qui on a déjà collaboré, moi et toi, sur un projet, la même chose, tu sais, des chouchous puis des idoles, j'en ai, puis des fois, c'est pas juste des gros monstres internationaux, là. Comment se porte le design? Mondialement, pour moi, ça va très bien. Le design se démocratise, il devient de plus en plus abordable, incontournable. Et ça partout sa planète, Europe du Nord, Angleterre, pays latins, Espagne. Tu vas te promener à Barcelone. Barcelone, c'est une ville qui a été transformée en moins de 20 ans au niveau architectural, au niveau des places publiques, au niveau de son identification. La même affaire pour le Portugal qui vivait dans un autre siècle.
Ouais.
Avec deux ou trois expositions universelles, ils se sont mis à la page. Bon, ils ont rentré des tramways high-tech. Mais tu sais, c'est pas juste, ça appartient pas juste à la signalétique au graphisme, ça appartient à tout l'ensemble de la société, cette transformation-là. Ouais. Des gens, c'est pas une affaire seulement d'Italiens, puis de Scandinaves, puis de gens friqués, puis de gens pas friqués, tu sais, qui se prend pas sur le pays. Le design, c'est devenu assez universel.
Ça prend une volonté aussi, hein. Si Barcelone change en 20 ans, il y a même le politique qui a dit, ben OK, ça fait du sens, travaillons dans ce sens-là. Là.
Au Québec, comme on n'a pas d'argent, à chaque fois qu'il y a une intervention qui est faite pour améliorer le contexte visuel dans lequel on évolue et qu'on vit,
ouais.
Il y en a 12 qui disent « Ouais, mais il n'y a pas d'argent pour les femmes battues, il n'y a pas d'argent pour les enfants dans les écoles, il n'y a pas d'argent... » Ouais, mais à ce moment-là, ben, on va avoir une culture du 5-10-15, du 3 $, puis c'est ce qu'on va vous donner comme place publique, puis est-ce que c'est là-bas qu'on veut vivre? La réponse, c'est non, on ne veut pas vivre dans un Walmart géant, tu sais, c'est comme... T'es allé à Rio, t'as vu, quand tu promènes sur le bord de la plage, puis tu regardes le trottoir avec ses petits carreaux blancs C'est une marque de commerce.
Absolument.
T'es pas en Floride, t'es pas dans sa plage.
C'est ça. C'est dans ce sens-là que je me dis que si l'urbanisme est un témoignage politico-public de cet intérêt-là, ben, c'est correct d'acheter une statue et de la crisser quelque part, mais c'est pas juste ça, me semble. Notre branding, nous autres, pour l'instant, c'est une série de no parking.
Des cônes oranges.
Aussi, effectivement. Ça, c'est du beau branding. Ouais.
Quand je regarde des pays comme la Corée, tu sais, on parle de Montréal, de ville des années.
Le design UNESCO.
Ouais. Il y a une grosse question à se poser là, par rapport à ça. Moi, à un moment donné, j'ai vu passer le nom des autres villes qui participaient à ça. Puis, excuse-moi, mais c'est clair qu'on a des grades de gens, qu'on a des écoles qui forment du monde en design avec énormément de talent.
Mm-hmm.
Par contre, est-ce qu'on a les ressources industrielles pour le développer? Est-ce qu'on a les clients potentiels pour les opportunités professionnelles pour tous ces gens-là? La réponse, c'est non. Actuellement, je trouve que, tu sais, je regarde des pays comme le Japon, la Corée, l'Allemagne, les pays scandinaves, où on a intégré le designer dans le processus de production industrielle.
Mm.
Ici, on produit des meubles depuis des siècles. À une époque des années 60, on avait mis des designers au niveau des meubles contemporains de bois. Mais là, on n'en fabrique plus. Fait que là, on ne peut pas avoir de designers de meubles. Ici, on n'en fabrique plus de meubles localement. Les Coréens fabriquent des appareils ménagers. Ils ont besoin de designers pour les faire. Ils ont envahi le monde, pas juste avec leur circuit électronique, mais avec le design, avec la façon dont les machines à laver étaient faites, l'intelligence des produits de leur frigo intelligent, sur de tout. J'ai vraiment l'impression qu'on est... On n'appartient pas encore à cette culture générale du design qu'on a intégré dans notre société. C'est peut-être parce qu'on a moins misé sur l'aspect industriel de l'affaire, tu sais. Les Scandinaves produisent des véhicules, produisent des meubles, produisent des vêtements, produisent, tu sais. Ils sont dans une étape de production industrielle. Nous, on est surtout dans une société de services.
Ouais.
On parle de sites web, on parle de films, on parle de production télé. On n'est pas dans un produit fini, tu sais, complet, tu sais. Ce qui m'agresse beaucoup actuellement, c'est les trends, c'est l'éthique d'industrie. C'est un petit menu très fermé. Si on regarde localement, c'est quelque chose qui est... le monde se met à faire beaucoup la même affaire eux-mêmes. On fait du stop motion avec du papier découpé, tout le monde fait du stop motion avec du papier découpé. Il y a eu une grosse tendance aussi... dans un look néo-atlantique des dernières années, un retour aux 80, mais pas aux années 1980, aux années 1880, c'est-à-dire ce faux retour aux sources là, avec les hipsters, le pillage dans le folklore et graphique.
Ouais, ouais, ouais.
Lumber design que j'appelle.
Ouais, ouais.
Un petit peu avec ses riffs, puis les fions art décoratifs, puis t'as l'impression d'acheter un produit dans une pharmacie des années des 1870. Là, ben, tout le monde s'est donné à faire ça dans le Maryland, à Brooklyn. Il n'y a pas un produit qui se lançait commercial sans avoir son fion, puis ses deux lignes de typo penchées. Pis... Ça m'intéresse beaucoup cet aspect non original. Ce qui m'embête aussi un peu, c'est, je te dirais, l'attitude fétichiste à outrance aussi, des fois, du design. Là. C'est-à-dire le côté ultra, ultra parfait de certains détails, de nos objets, trop en détail. À la fois, je m'intéresse beaucoup aux bienfaits, j'aime ça,
la
discussion d'un projet est bien faite. Mais à la fois, cette communauté-là, auquel j'appartiens pas, puis je ne veux pas appartenir, le côté designer trop perfectionniste, fétichiste à outrance pour l'objet, tu sais.
Qu'est-ce qui t'énerve là-dedans?
De perdre la perte d'humanité dans cet exercice-là. Je pense aux gens, là, il y a eu un gros trend où les gens mettent tous leurs objets dans leur maison, puis ils font une photo, ils sortent leur beau petit pantalon plié, leur nouvelle selle de vélo, leur sac qui match avec la selle de vélo, les deux chaussettes déposées là. C'est pas l'essence, c'est plus l'avoir qui est présenté. Tu peux se comprendre? C'est être et avoir, on est plus dans l'avoir. T'sais.
Pourquoi tu dis que tu veux pas faire partie de cette gang-là?
Non, je ne veux pas faire partie de ta gang-là.
Pourquoi?
Parce que donc, je suis assis sur un œuf à regarder pendant 4 heures un morceau de métal, puis à décider en deux morceaux de métal, c'est pour qui monsieur et madame tout le monde ne verront jamais la différence. Je dis ça, puis à la fois, j'accorde beaucoup d'importance à certains détails dans la vie. C'est un paradoxe.
Oui, c'est ça.
Quand on parle de produits industrialisés, ben quoi... Une canne de sirop d'érable, elle n'a pas beaucoup évolué, notre canne de sirop d'érable.
Ben, remarque, elle est super lumber trendy, ce temps-ci, là.
Sans vouloir. D'ailleurs, au Japon, j'en ai vu.
Ils trippent là-dessus, eux autres, hein?
C'est une des fiertés des Québécois, là. À un moment donné, j'appelle Erlang, il y a un article de 6 pages sur la cabane à sucre puis sur le sirop d'érable du Québec. J'arrive au bout d'une île, la dame, pour me faire plaisir, elle nous fait des crêpes le matin, puis elle nous sert du sirop d'érable de piste civile, tu sais, c'est comme, wow! La canne, tu sais, de piste civile, tu sais, c'est comme... Là, je me dis, ah, OK, ça traverse les pays, ça traverse les frontières, ce produit-là. Puis tu vois, ça, c'est sûrement un bon design de l'époque.
Mm-hmm.
Parce qu'au niveau marketing, il n'y a rien de plus authentique que ça.
Là. Ah non, regarde, si t'es un japonais, tu dis c'est ça. Je sais pas c'est quoi, mais je suis sûr que c'est ça.
C'est ça. Tu vois ta carte, tu dis c'est ça.
Ah.
C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir été à l'écoute. Si le cœur vous en dit, poursuivons cette conversation sur Twitter via le hashtag GrenierMag et mon identifiant PizzaForAll. Pour écouter d'autres podcasts, rendez-vous sur le Grenier aux Nouvelles. Vous pouvez également me retrouver dans la section podcast d'iTunes sous Das Podcast. Ou bien, venez donc faire un petit tour sur mon site web, miron.co. À la prochaine!